Le 5 juillet 2012, ça a fait demi-siècle que l'Algérie s'est libérée de l'emprise, du moins directe, de la France colonialiste. Cet événement fait bien partie de l'histoire, ou plutôt des histoires officielles racontées bien entendu différemment dans les deux pays. En France, par exemple, on entend encore trop souvent les voix nostalgiques des vieux colons ou de leurs relèves de droite, ou bien la théorie raciste qui est assez partagée, même par la gauche, sur les aspects dits positifs de la colonisation. En Algérie, les cours d'histoire dans les écoles racontent apparemment surtout le côté glorieux de la résistance. Les rues portent les noms des héros, hommes et femmes, des FLN qui se sont battus ou ont donné leur vie pour la libération. Mais apparemment, les pratiques comme les exécutions de ceux qui refusaient de cotiser pour FLN, par exemple, ou les luttes fratricides qui ont suivi la libération, ne sont pas bons à raconter. Parmi les différentes histoires que tout le monde s'accorde de garder dans l'ombre parce qu'elles sont douloureuses, pour les raisons différentes selon les personnes concernées, restent les histoires des harkis. En dehors de quelques travaux de recherche, il existe peu de sources de témoignages ou de réflexions sur les questions que ces histoires soulèvent et qui vont plus loin que les questions du bien ou du mal. Et pour les enfants des harkis, qui n'ont pas été exécutés par les Algériens dans les années après la libération, et ceux qui étaient repris par l'ancien colon et parqués dans les camps en France, comme celui de Rivesaltes, revient le travail douloureux de la construction de son identité à partir de ce qui est difficile à penser. Malika nous présente son blog qu'elle publie depuis 2010, l'archéologie, avec un H au début et un I après K, comme archi, où elle cherche et trouve les mots, s'écherche et partage ses impressions dans une forme semi-poétique.
Il y a quelques temps maintenant, j'ai créé ce blog qui avait d'abord la vocation d'être consacré à la thématique harki, d'aborder plusieurs angles la thématique harki, pas de manière historique, je voulais pas faire un travail d'histoire rigoureux. L'idée c'était de d'écrire à partir de cet héritage qui est aussi une malédiction et pas que, mais ça c'est après le travail d'écriture qu'on s'aperçoit. Donc l'idée c'était de fabriquer un petit peu une culture ou des cultures, c'est-à-dire une écriture, de la poésie. Il y a des recueils de témoignages, des ouvrages qui ont été publiés, il y a beaucoup de thèses aussi, il y a un certain nombre de thèses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Mais moi, je ne voulais pas justement m'inscrire dans un projet universitaire, mais plutôt trouver à raconter, à délirer aussi, à partir de l'art ou de l'écriture, sur cette question-là. Un petit peu comme il y a la chanson de l'exil que Rachida avait reprise il y a quelques années. Je ne sais pas si tu connais.
Yaraya, oui.
Voilà. À partir de cette chanson, il y avait un peu de frustration. C'est-à-dire que c'est dans cette chanson-là, je crois, je ne suis pas rabophone, mais il parle de l'exil et de l'exil de l'immigré. Me semble-t-il, il n'y a pas de chanson, par exemple, écrite à partir de l'exil politique des harkis ou de l'immigration. On peut parler d'immigration de guerre pour les harkis, je crois que c'est... Ça semble correct, me semble-t-il. Mmh. Mais il n'y a pas eu de matière artistique autour de ça. Donc voilà, l'idée c'était ce manque et une frustration certaine de ne pas exister trop. Et d'être à la fois, de pouvoir me reconnaître à la fois dans le parcours d'enfants d'immigrés, classique, mais avec peut-être un stigmate en plus. Avec un stigmate qui est le fait d'être fille d'anciens harkis. Et c'est à partir de là. Donc peut-être d'abord le moteur, c'est le vide, le vide culturel. Bah pour moi, déjà, il y avait l'impression d'être inscrite dans une histoire et dans une filiation maudite. Comme si la stigmatisation, le fait d'avoir été banni de leur pays, mes parents, que cela se reproduisait aussi chez les enfants, comme si on le portait. Après, les bienfaits dans l'histoire, je sais pas, c'est plus en termes. C'est à partir de l'écriture. M'interroger aussi sur ce qu'est, de manière anthropologique ou psychanalytique, ce qu'est la faute dans l'histoire de l'humanité. Et comment est-ce qu'on se construit quand on sent porter la faute? Quelle défense, quelle stratégie inconsciente on développe aussi? Moi, je sais que j'étais dans une attitude, on va dire, de pureté. C'est-à-dire un peu d'incorruptibilité politique. Pas que politique, mais à tous les niveaux. Tu vois, une espèce de comme ça, de l'idée inconsciente de vouloir réparer la faute du père. Et finalement, à force de vouloir la réparer, ce qu'on ne fait pas en réalité, ce que j'ai pas réussi à faire et qu'il faut pas, je pense pas que je dois le faire. Là où je peux dire qu'il y a eu résolution de cette problématique, c'est oui, pointer de manière anthropologique ce qu'est la faute depuis, on va dire, Adam et Ève. Comment est-ce que, par la faute originelle, ils se font expulser du paradis? Et j'ai mis un petit peu en rapport mes parents. Comment est-ce qu'à partir de l'incorporation de mon père dans les forces supplétives de l'armée française, comment est-ce qu'après il est amené à fuir l'Algérie et à être banni un peu de son paradis. Alors voilà. Et finalement, comment est-ce que cette histoire-là est une histoire universelle? Je sais que dans les sociétés kabyles anciennes, il n'y a pas la prison, par exemple. Mais le fautif, la fautive, elle est bannie, elle est ostracisée de la cité, un petit peu comme chez les Grecs.
Les enfants du paradis. Tu sais pas quoi dire quand on te demande de quelle origine t'es. Alors tu dis d'Algérie, et tu crois que tu t'en tires bien. Mais tu te rends compte que tu parles comme les nostalgiques encartés au Front National, merde. Quoi dire alors? Kabyle. Là, ça passe mieux. Mais ça peut être l'embrouille avec l'anti-Kabyle primaire. Quoi, la Kabylie, c'est l'Algérie, dit-il. T'es algérienne? Et toi, tu dis. Oui, voilà. T'es en soirée, c'est un anniversaire, t'as pas envie de te prendre la tête. T'apprends l'hébreu d'abord. Après, tu te dis. Non, quand même, apprends l'arabe. Mais t'y arrives pas. Tu comprends rien, pire que les maths. Carence cognitive des acquisitions, défaillance du père, aurait dit un neuropsychiatre. T'es la dernière de la classe. La honte, y a que des CFR. Et en plus, le prof, il te dégoûte. T'abandonnes. Et puis tu vas au Liban. Ouais, je me rapproche du monde arabe, de mes racines. Le Liban, c'est neutre, pas d'affect. Et là, tu vas dans le Liban sud. Et le Libanais chez qui tu crèches et qui vient de te raconter les massacres de Sabra et Shatila te montre des druzes. Et là, il te dit, eux, ils ont travaillé avec Israël. C'est comme les harkis. Le pire, c'est qu'ils pensent te faire plaisir en disant ça. Et là, t'es dégoûté. Tu sais pas quoi dire. Tu te dis, ouh là là, qu'est-ce que je fous là? Avant d'aller au Liban, t'adhères au Parti communiste. T'as 20 ans. C'est la mutation. Robert Hue, cool. Et là, il y en a un étudiant, un bon bourgeois de gauche, bien ancré, bien solide, bien légitime, qui dit « Les harkis, c'est des traîtres ». Il sort avec une bourgeoise d'Alger. « À elle non plus, faut pas lui parler des harkis », dit-elle avec son gros cul, ses sandwichs au jambon, son féminisme de façade, objet érotico-exotique de son néocolon de gauche. Sa laïcité, ses cheveux défrisés qui craignent la pluie, la totale. Et toi, t'es dégoûté. Tu sais pas parler. Tu sais pas les enjeux, on t'a rien raconté, t'as honte. Mais aujourd'hui, tu peux répondre à ce stalinien castré. T'as étudié, compris, réfléchi, pensé, donc va niquer ta mère, toi et Marx. Le PCF et la gauche française aiment l'Algérie et les Algériens. Mais le harki n'est pas le bon sauvage. Après, tu vas aux indigènes de la République. Pas longtemps. A priori, là, ça devrait être bon. Le colonialisme, le post-colonialisme, la question harki est intégrée dans le discours. Tu crois que t'es à l'aise, donc tu vas à la manif pour commémorer le 8 mai 45, massacre de Sétif. Tu te sens à ta place, t'es aussi de cette mémoire, t'as le droit. Et pendant la manif, Il distribue des pancartes avec des photos des grandes figures de la lutte anticoloniale. On te donne la pancarte de Sékou Touré, ça te va très bien. Et là, il y a un gars, probablement de roux guinéen, de souffle, ici l'emploi du mot « roux » supplante l'expression consensuelle d'origine, traduire « AOC », car celui qui part, qui vient et qui naît n'est pas une marchandise. Ce mec donc, probablement de roux guinéen, et qui te dit « vas-y, on échange de pancartes, je veux celle de Sékou Touré ». Ok, pas de problème, on procède à l'échange, et là, il te donne la pancarte de Ali Lapointe, et au moment où tu le découvres, il y a l'hymne national algérien qui est lancé bien fort, et les marcheurs commencent à chanter. Et là, tu penses à ton rep, tachycardie, boum, boum, oh putain, qu'est-ce que je fous là encore? Réaffiliation par la recherche du traumatisme, ça, c'est le duc qu'il dit dans « Les Harkis, un passé sous silence », c'est paru aux éditions Revue L'Autre en 2002. Et puis, tu constates que c'est beaucoup de gars, de filles, qui se sentent un peu coupables d'être allés trop loin dans l'intégration et qui veulent revenir. Mais toi, c'est pas ça ton problème. Et d'ailleurs, c'est quoi ton problème? Toi, tu reviens pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas partis. Où sont-ils? Suspension. Géographie de l'archaïque. Le néant, pas le vide. Le néant. Le tout possible, donc le rien du tout. La glissade, pas de crampons, filles et fils d'Adam et Ève chassés, illégitimité A. L'enfant sauvage, trouble de la parole et du langage, manger la terre. Quelle référence au-delà, quelle histoire? Rupture, quoi avant l'histoire? Les cités d'or, Esteban et Zia? La planète des singes, il était une fois l'homme, les mondes engloutis, Ulysse 31? Le repère perdu du père, le rep du PR, le R. PR, du P, père. Il y en a une aussi, un peu sadique, qui te dit comme ça avec une voix bien douce. Ma grand-mère m'a dit que ce sont les Harkis qui ont retardé l'accession à l'indépendance. Et toi, ta grand-mère, que dit-elle? Ben, je sais pas. Ma grand-mère, c'est un concept, une abstraction. A-t-elle vraiment existé? Oh, il y a bien eu quelques figures de substitution. Mamie Nova, la vieille voisine d'en face, mais en fait, elle aimait pas les Arabes. La grand-mère de Yakari, l'ancienne dans la guerre du feu. Rosa Luxembourg, Françoise Dolto, Toni Morrison. Et puis un autre qui te raconte que son grand-père s'est fait tuer par un harki. Et toi, tes défunts, ils ont pas le droit de citer? Tu penses à tes semblables, ceux avec qui t'as grandi. Hôpital psychiatrique, rat, carré musulman. L'émotion ne serait-elle qu'une géopolitique? Et puis il y a elle. Elle, c'est ton amie pourtant. Tu l'aimes bien. Et là, elle t'achève. Mais ta mère, elle s'est mariée avec ton père, avant ou pendant l'indépendance? Parce que j'ai entendu dire que les femmes de Harki étaient de seconde main, ou un peu vieilles, ou dégénérées. Et là, précisément, tu penses à ta mère, à elle, ses mains, sa puissance, au carré musulman de Dreux. Et à ton amie, t'as envie de lui mettre un coup de tête ancestral, un peu comme Zidane, quelque chose qui vient de loin. Ton djinn, ta folie berbère commence à vibrer, à se mettre en mouvement. En plus, il faut pas dire qu'on est kabyle. Ça fait le jeu du colon, du néocolon, ça clive, disent-elles les bourgeoises. Zerma, ça clive, quoi ça clive? Je suis déjà en 1000 morceaux, quoi? Ça va cliver un morceau? Ben restez et rassurez-vous dans votre monolithisme. Déjà que je galère avec cette question, elle me rajoute une difficulté. Non mais oh, ça va pas? Je me casse, comme d'hab. Et puis un jour, comme ça, t'as envie d'aller aux commémorations du 25 septembre. Dans le bus qui t'y emmène, il y a deux vieux avec la coupe de cheveux des ultras, angle droit au sommet du crâne, tract en main. Ouf, t'as pris le bon bus. C'est marrant, il y en a un qui ressemble à Bouteflika, avec plus de cheveux. Les harkis? Le seul fétiche qui leur reste. À qui? À tous. T'as quand même envie de leur chanter « Mon légionnaire » à ces deux endroits opposés, à l'autre aussi. Cérémonie du pathos. Sur place, tu rencontres un gars, comme toi a priori, mais là il dit « Faut que l'État français, il donne plus aux harkis qu'aux immigrés. » Comme disait Garance, le monsieur, c'est pas un philosophe. Et tu voudrais lui dire « Ah mais toi tu continues d'y croire, et en plus tu penses que t'es pas un gnoulbou ?» Mais dit comme ça, les harkis, c'est sympa. Alors tu te dis « Bon, ça suffit, rentre chez toi maintenant. » Enfin, mais là, ça dure 3 minutes, t'as le Céfran converti, Kevin alias Abdul Alaeddin Al-Razak, le gars qui s'est fait son mix un peu d'islam, un peu des mille et une nuits, après tout, il a le droit si ça le structure, lui, il veut t'aider, œcuménique Zerma, et là il te dit « Arrête ma sœur, dis pas que ton père c'est un traître ». Et toi tu réponds « Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ancien harki ». Et ce naze qui comprend rien, il feint la gêne à ta place, et t'as envie de lui dire « Toi, va retrouver ton père, d'où tu me saoules là ?» Et puis, je suis pas ta sœur. L'autre, il veut m'embarquer dans sa névrose et au passage, se marier. Non, merci, j'en ai déjà une névrose. Alors Garance dit, ne cherche plus Malika, tu viens du paradis.
Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chemin. Rebecca, pour vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé, vers Arcadia, vers les mondes engloutis, pour nous sauver la vie.
Alors moi, je ne suis pas une fille de camp de harki, hein. Je suis d'une autre génération par rapport à mes deux grandes sœurs aînées. Mais elles, par exemple, ce sont des... elles ont grandi dans un camp du sud de la France, à Rivesaltes. Et effectivement, bon, moi, je fonctionne un petit peu à l'intuition. Mais il me semble que ces camps-là, qui sont des lieux fermés, qui sont des lieux de marginalité, ont pu être des lieux d'expérimentation sur les populations... immigrés du Maghreb. Et comment est-ce que l'État français a opéré auprès des parents, des mères, des pères et des fils et des filles pour tester un peu leur politique assimilationniste. Après le cessez-le-feu entre la France et l'Algérie, les harkis ont été désarmés par l'armée française. Ils ont été abandonnés et en fait a eu lieu le massacre des harkis. Donc en fait, c'est pour ça que cette période-là de commémoration de l'indépendance algérienne, dans l'histoire de mes parents et dans ma mémoire, chez nous, c'est plutôt le début du massacre.
D'accord.
Des harkis. Précisément, l'été 62 à 63-64. Voilà, tu vois, c'est une autre... Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'à un moment donné, comment est-ce que l'État français, dans ses camps, par l'entremise... Des assistantes sociales et des prêtres de l'Église catholique ont appliqué des méthodes qui visaient à assimiler ces enfants qui n'auraient jamais dû... En fait, les harkis n'auraient jamais dû arriver en France. Donc l'idée, c'est de gommer cette histoire-là. Et donc, de la gommer en les assimilant, c'est-à-dire en déjà en prenant la place des pères et des mères. Donc, comme ça, une façon de... déposséder les parents de leur autorité, d'attribuer aussi des prénoms qui ne sont pas des prénoms choisis par les parents, donc souvent des prénoms, comme on peut dire, français ou alors non musulmans, je ne sais pas. Voilà, comment est-ce que ces camps, en fait, ont été comme une forme de... Ben, c'est Foucault qui dit ça, quoi. Les lieux fermés, c'est comme un accélérateur sociétal. Tu fais accélérer, comme la prison d'ailleurs. C'est des lieux qui ont, au sein desquels il n'y avait pas de loi. Donc exploitation des pères harkis, avec des travaux sous-rémunérés, pas protégés, psychiatrisation aussi des harkis lors des révoltes dans le camp contre les traitements. Aussi, il était possible qu'on retire les enfants aux familles, qu'ils aillent dans des centres de redressement. Il y a eu des viols, des abus, des vols de la part des gardes forestiers, des...
D'ailleurs, ces camps, en fait, moi j'ai appris juste l'année dernière que En effet, à Rivesaltes, il avait un grand camp. Je ne sais pas où il y avait d'autres, s'il y avait d'autres.
Oui, alors il y avait les camps... Ouais, alors le camp de Bias, moi j'étais dans le sud. Après, je connais pas les autres...
Et moi j'ai vu un documentaire l'année dernière qui parlait de ces camps. Et comme ça, je suis que en fait, il y avait cette histoire, mais justement, ces camps étaient complètement à l'écart des villes ou des villages, des populations habituelles françaises. Et même cette histoire récente, elle était assez invisible pour les habitants autour.
Oui.
Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont déjà entendu parler que ça existait.
Non, non, c'est un sujet, de toute façon, c'est une histoire qui est taboue, hein, qui a été... on est encore dans la retenue, quoi, dans...
Et tu penses pourquoi ? Quelles sont les raisons ?
Sans donner trop de place à la question archi, hein, mais en tout cas, c'est comme un révélateur en réalité, et de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Algérie. Mais moi, je m'intéresse un peu plus quand même à l'histoire de la France et comment est-ce que l'histoire, comment est-ce que les discours politiques français ont abordé, regardé le archi, la figure du archi. C'est-à-dire comment, que ce soit de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, comment le archi, là, cette figure un peu presque fétiche, la façon dont on la voit, révèle tel ou tel discours politique. C'est-à-dire comment le harki s'est devenu un peu le fétiche du discours de l'extrême droite française dans sa nostalgie de l'empire colonial. Comment est-ce qu'à gauche, c'est devenu l'anti-mythe du bon sauvage, c'est-à-dire l'anti-bon arabe. Et comment est-ce que, aussi du côté de la gauche, le harki l'a permis de décompenser, je ne sais pas comment on dit, de manière raciste. C'est-à-dire que là, on pouvait s'attaquer, la gauche s'est attaquée au harki. Voilà, une figure expiatoire
autorisée,
c'est cela. Ça m'intéresse comme de pouvoir ne serait-ce que voir ça.
Le pas, un, deux, en ces combattants, on a sauté. Marque le pas, un, deux, en ces combattants, on a sauté. Marque le pas, un, deux, en ces combattants, on a sauté. Marque le pas, un, deux, en ces combattants, on a sauté.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades, ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras,
cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Les rois, cadavère. Les reines, cadavère. Tous les présidents, cadavère. Les ministres, cadavère. Tout le monde, cadavère.
Marque le pas, un, deux, en ces combattants,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, en ces combattants,
on a sauté.
Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, pour porico. La poule ne va plus le poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le footer, pousser le ballon.
Cadavère, les joueurs, cadavère. Les équipes, cadavère. La radio, cadavère. La télévision, cadavère. Les stades, cadavère. Les arbitres, cadavère. Les supporters, cadavère.
Ta femme,
cadavère.
Le premier bureau,
cadavère.
Le deuxième bureau,
cadavère.
Mes bœufs,
cadavère.
Mes moutons,
cadavère.
Mon chien
cadavère,
mon chat
cadavère,
tout le monde est
cadavère,
et moi-même
cadavère.
Ce combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ce combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ce combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ce combattant,
on a sauté.
La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand on verra la bombe, tout le monde est bombé. Oh,
cadaver, ton pays, cadaver. La France, cadaver. L'Italie, cadaver. L'URSS, cadaver. Les États-Unis, cadaver. L'Allemagne, cadaver. Les enfants, cadaver. Tout le monde est cadaver. Bonjour, bonjour. Si tu voyais anglais, good morning. Si tu voyais américain.
Et dans ton blog, tu parles aussi des situations qui ne sont pas spécialement liées à l'histoire arqui, mais qui sont liées au néocolonialisme et au racisme actuel qui persiste, qui forcément qui sort aussi, qui prend ses racines aussi dans l'histoire avant la libération de l'Algérie.
Oui, effectivement, j'ai étendu la question à l'actualité, hein, l'actualité du monde arabe en France. Mais aussi parce que, selon moi, l'histoire des harkis, c'est presque une anticipation politique, je trouve. Un petit peu, et c'est là où je m'accorde un petit peu de légitimité, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ayant un peu de savoir sur le sort des harkis, enfin en ayant en posé dans cette mémoire-là, c'est comme si, des fois, j'étais amenée à anticiper ce qui se passait aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. La question de l'islam en France, comment est-ce qu'elle a été instrumentalisée, manipulée. Et puis l'actualité, c'est aussi cette année-là, 2012, c'est-à-dire comment ça avait débuté juste avant le 19 mars 2012, là, toute une semaine, deux, trois semaines comme ça, de commémoration non officielle, mais médiatique, avec des reportages à la télévision. Et comment, par exemple, l'histoire de l'affaire Merah, qui a lieu le 19 mars 2012, hein, c'est-à-dire 50 ans jour pour jour après le 19 mars 62, comment est-ce que cet événement-là, il a suspendu toutes les manifestations prévues en France?
Tu peux rappeler par même occasion le 19 mars
Écoute, je ne suis pas une professionnelle non plus. Il me semble que c'est le cessez-le-feu. Mais ce n'est pas une date... Là, c'est vrai aussi, moi, enfin, c'est inconscient peut-être, mais il y a aussi une certaine histoire que j'ai encore du mal à assimiler, mais... C'est vrai que j'ai pas retenu, par exemple, le 19 mars. Non, moi, je retiens, par exemple, la date du 14 août 1962. C'est le jour où mon oncle s'est fait égorger. Tu vois, ça, c'est, bon, c'est une date intime, peut-être. En tout cas, c'est le massacre des harkis. Ce serait bien que je retienne aussi les autres dates, mais... Pourtant, je suis forte en date, normalement.
Tu veux citer quelques exemples des articles de ton blog?
Oui, tout à fait. Mais des articles où je me... Enfin, des articles, des petits textes, hein, qui sont des fois des pensées, où ça peut tenir des fois sur une ou deux phrases, mais où je me moque un petit peu de la façon dont la droite française a pris en charge les harkis. Aussi, et la droite et l'extrême droite ont pris en charge les harkis un petit peu pour légitimer leur nostalgie vis-à-vis de l'Algérie française. C'est-à-dire qu'en fait... Comment est-ce que cette figure-là, elle leur a servi de fétiche pour se maintenir, maintenir un discours politique obsolète et archaïque? Enfin, je me moque. Non, je me moque pas, mais en tout cas, je pointe ça. Puis il y a des articles aussi où j'ai un petit peu, sous forme de diaporama, de photomontage, à partir de rien, c'est-à-dire que l'histoire des harkis, enfin, il y a rupture avec l'Algérie du côté des parents. Donc il y a tout un espace où on ne sait rien. En termes d'identité, c'est compliqué de se construire quand il y a eu rupture avec la terre d'origine, la terre des ancêtres. J'y suis un peu parvenue en mettant en scène la mère de mon père, ma grand-mère, que j'ai pas connue, puisque elle est restée en Algérie, et en la faisant exister un petit peu, donc en la mettant dans des situations à partir de photomontage, et notamment de la faire venir en France, et de la faire plaider à l'Assemblée nationale, demander réparation, donc à l'Assemblée nationale, au Panthéon, en demandant une sépulture pour son fils, pour mon oncle. Je l'ai mise aussi au Collège de France, ou celle qui enseigne. Voilà, je l'ai fait exister un petit peu, ça c'était pas mal. Enfin, en tout cas, ça m'a un petit peu guéri. Ça permet de donner une histoire avant les parents, puisque après les parents, on sait plus...
Avant la rupture.
Oui, avant la rupture. Puisqu'avant, on sait pas ce qu'il y a. Donc voilà, c'est un petit peu thérapeutique hein, aussi, hein. Il y a cette démarche-là. Enfin, j'y ai pas pensé au départ, que ce soit thérapeutique, mais ça a eu cet effet-là. C'est-à-dire d'inscrire davantage, de se raconter une histoire, même si elle est un peu mythologique, mais de se donner un peu plus d'ancrage, quoi, parce que c'est aussi l'idée d'ancrage, et puis aussi de se sentir appartenir. Il y a aussi l'aspect un peu d'hybridité, quoi. Mais l'idée, après, le fait que j'ai étendu ça à d'autres thématiques, par exemple la question des banlieues, la question des bavures policières aussi, c'est qu'à un moment donné, il me semble qu'il y a... Il y a toute une histoire de l'État français avec ces Arabes qui se perpétuent. C'est-à-dire que comment est-ce que l'État français s'est attaqué au père et puis au fils par la suite. Aujourd'hui, c'est les fils et les filles.
Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'attaquent pas de la même façon aux fils.
Non. Puis, oui, effectivement, une fille, elle a un utérus. Hein, c'est-à-dire qu'elle est lavable. Quoi. Elle peut, à partir d'un bon sperme bien gaulois, elle peut fabriquer du gaulois. Le garçon arabe, il va créer l'affiliation côté arabe, côté sémite, quoi. C'est pas... Il n'y a pas les mêmes projections. Mais ça, on l'a vu, par exemple. Ça, j'ai consacré un petit texte à Rachida Dati et à Jamel, son frère. C'est-à-dire, comment est-ce que l'État français... Bon, là, il s'agissait de l'UMP. Hein, comment est-ce qu'on a mis en avant comme ça Rachida Dati, ministre de la Justice, qui fait cette loi contre la récidive? Et comment, parallèlement, cette loi rentre pile-poil pour Jamel, qui est son frère, et qui, lui, est inscrit dans un parcours de délinquance. Je trouvais que c'était un bon résumé de la façon dont on a construit la fille super bien intégrée, mais qui doit sacrifier son frère.
Donc du coup, ça fait penser que ça n'a pas beaucoup changé. L'État français, il continue de diviser et fabriquer des traîtres.
C'est ça, oui. Et effectivement, avec aussi la dimension sexuelle, quoi, genrée. Ouais.
Et tu disais que les personnes qui proposent comme solution que l'Algérie, pardon, c'est Arki, ça t'énerve un petit peu.
Oui.
Quelle piste t'enverras pour s'en sortir de cette stigmatisation?
Non, mais la piste, c'est déjà de mettre en avant comment est-ce qu'on a fabriqué le Arki dans le contexte de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire comment... L'observation ethnologique, anthropologique, celle de, par exemple, Jean Servier, qui est un ethnologue. Il a travaillé sur les villages berbères, kabyles, et il a observé les rivalités. Donc c'est à partir de ces savoirs-là, de ces observations, que la France a pu après injecter, à partir de cette faille-là, comment est-ce qu'après tel ou tel village, à partir de ces rivalités ancestrales, s'est prononcé du côté de la France ou du côté FLN. Ça, déjà, tu vois, je trouve que cet aspect-là, c'est bien qu'il soit mis en avant, ne serait-ce que pour comprendre comment est-ce qu'on devient Arki. Parce que, par exemple, si moi, c'est tout le village de mes parents qui est devenu. C'est un village de Arki. Après, la solution, des pistes. Non, mais un travail, oui, un travail pédagogique... Un travail d'histoire dans les collèges, quoi, par exemple, pour commencer. Que ce soit diffusé dans les collèges, cette histoire-là, qu'elle puisse être racontée. Pas que pour les Arki, hein, que l'histoire de la guerre d'Algérie, voilà, qu'on sorte de ce refoulement là, de 50 ans, de cette 5e République. Mais aussi que l'État français, à un moment donné, il se regarde, quoi, qu'il commence à regarder véritablement son histoire. Et puis, du coup, je pense que l'actualité, après, elle pourrait changer.
I'm a
L'idée, c'est de comprendre aussi le rapport que l'État français il a avec, avec l'islam. C'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est aussi embrouillé ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors pourquoi ? Je vais peut-être revenir à ce que je disais au départ, quand on évoquait la faute originelle. Le christianisme, historiquement, il a fait porter la faute aux juifs, dans l'antisémitisme théologique, par exemple, à travers l'histoire. Donc il y a eu... les pogroms au Moyen-Âge, il a toujours déversé sur l'autre sa culpabilité, j'ai l'impression. Il y a eu l'affaire Dreyfus, après il y a eu Vichy. Et comment est-ce que l'État français, après 45, c'est-à-dire après le Nouvel Ordre et le tabou de Vichy, comment est-ce qu'on fait se déplacer cette faute qu'on jusqu'ici on attribuait aux Juifs, comment est-ce qu'on la fait glisser sur la figure du musulman ? D'ailleurs, et ça je crois que c'est à partir de 45. Donc 8 mai 45, c'est la libération de la France, mais c'est aussi côté algérien, Sétif, c'est le massacre de Sétif. Et c'est comment à chaque fois il est amené cet état, je sais pas, hein, c'est enfin, la France quoi, à projeter sur l'autre sa propre faute. Et voilà, il s'opère, je crois, un glissement entre le juif et l'arabe. Mais de toute façon, la figure, elle est toujours circoncise. On passe d'une circoncision à une autre. Et donc, voilà, 8 mai 45, après c'est le 17 octobre 61. Donc là, on est dans tuer les pères arabes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, l'actualité, c'est les fils. C'est les fils qui ramassent les bavures policières... Oui, d'ailleurs, la question de l'islam, elle aurait besoin d'être abordée, mais à être abordée de manière historique, c'est-à-dire, à un moment, reconnaître la place de l'islam dans l'histoire de France, notamment dans la résistance. Comment, à un moment donné, l'islam, la mosquée de Paris, agit en cachant des enfants juifs.
Pour les sauver...
Voilà, des arrestations, des déportations, du régime de Vichy. Oui, c'est vrai que c'est pas très connu, mais je trouve que cet événement-là, qui est un événement clé, quoi, c'est-à-dire que inscrire à un moment donné l'islam dans l'histoire de la résistance française, c'est-à-dire, et puis du coup reconnaître ces gars, ces femmes musulmans, musulmanes, qui ont agi comme des justes, ce qu'on appelle des justes. Donc ça, je trouve que ça, ce serait un point de l'histoire comme ça qui serait intéressant à écrire, à inscrire dans les collèges, dans les livres d'histoire. Ça permettrait de s'apaiser et puis de se reconnaître dans cette histoire qui nous a invisibilisés. Voilà, ça c'est une réflexion que je trouve sympathique. Hein, enfin que... Il y a des ouvrages qui m'ont aidée. Hein. Ceux de Dalila Kerchouche. Alors elle a écrit un roman que j'aime pas trop. C'est mon père, ce Harki. Mais par la suite, à la fin, je trouvais un bel ouvrage de recueil de témoignages. Femme de Harki, fille de Harki. Ça, c'était pas mal. En termes de mémoire brute, comme ça, c'était vraiment bien ce qu'elle a fait. Et ça m'a aidée. Tu vois qu'entre le récit des parents, qui est un récit silencieux, et soi, qu'une intermédiaire, comme ça, une espèce de grande sœur symbolique se pose... et qu'elle se mette à raconter, j'ai trouvé ça très intéressant, donc Dalila Kerchouche. Et puis, il y a aussi une création, une performance chorégraphique que je suis en train de travailler en ce moment, donc autour de cette thématique Harki, qui va s'appeler la danse du Harki, et qui devrait paraître à Dreux, au musée d'art contemporain, dans le cadre de l'exposition des peintures de mon frère. Donc ce serait une chorégraphie, une espèce de performance politique, chorégraphie politique sur le harki. Il y a un livre aussi qui va sortir au mois de septembre. C'est une espèce de conte philosophique, initiatique sur les harkis, sur faire la promotion familiale, mais c'est qui est écrite par mon frère, Michel Talata. Et donc il y a un texte, un conte, et puis des illustrations, de la peinture sur ce sujet-là. Plus dans une dimension artistique, picturale. Ça, c'est pas mal. Ça va s'appeler Rue des Harkis. Rue des Harkis, c'est une rue à Dreux qui a été baptisée Rue des Harkis. Et voilà, il part de cet événement-là, qui était un peu space, quoi, de baptiser une rue des Harkis. Il a écrit à partir de cet événement-là. Où c'est le petit-fils qui interroge le père sur le grand-père. Ici, autour de la filiation. Parce que l'idée, dans cette histoire de harkis, mais pas que de harkis, en réalité aussi, d'enfants d'immigrés, c'est bien de recréer... D'arriver à se fabriquer cette filiation, une histoire avant, quoi. Bon, je sais que pour des enfants d'immigrés, c'est peut-être plus simple, l'aller-retour France-Algérie, d'y retourner, de savoir comment c'est là-bas, de pouvoir importer, exporter. Mais en tout cas, moi, de notre côté, c'est le vide dont je parlais au départ. Et comment est-ce que, par exemple, l'histoire de la mise en scène de ma grand-mère, elle permet de combler un petit peu. Parce que ça manque, hein, pour se structurer le... si t'as pas... Tu connais pas ton histoire, t'es pas très structuré, au fond. T'es un peu bancal, hein. On reste un peu bancal, hein. Comme on n'a pas trop de matière première, aussi, t'es obligé d'être amené à être dans la symbolique, un peu dans l'abstraction, aussi. Mais c'est pas plus mal, hein. Mais c'est long, quoi. C'est long parce que... Parce que pendant longtemps, moi, j'ai cherché dans les livres d'histoire, j'ai fait des études d'histoire. Mais même après, tu vois, je lisais des livres sur la guerre d'Algérie. Tu vois, j'essayais de comprendre, mais en réalité, c'était pas cet endroit-là qu'il fallait que... Enfin, c'était bien d'être passé par ce cheminement-là, mais c'est pas ce dont j'avais besoin. C'était plus une réponse intime. Enfin, il n'y a pas de réponse non plus universelle à cette question-là. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a une forme de guérison, parce que, aussi, il faut dire, hein, y a beaucoup d'enfants d'harkis qui sont dans la toxicomanie, hein, en hôpital psychiatrique. Il y a un taux de mortalité élevé chez les enfants d'harkis. Il y a tout ça, toute cette exposition au trash, hein, au drame. Moi, j'ai trouvé, par exemple, une solution récemment, intime, hein, ceux qui veulent... J'ai demandé à un ami... Kabyle de me ramener de la terre de Kabylie et je l'ai mangé. Et je trouve que ça m'a un petit peu guéri. Tu vois, comme s'il manquait, parce que j'ai bien compris qu'à un moment donné, il manque un ingrédient, quoi, presque un ingrédient de l'origine, quoi. Et là, ça m'a fait du bien quand j'ai mangé cette terre. J'ai mélangé dans de l'eau et puis je l'ai bu. Et depuis, je me sens... Alors, je ne peux pas dire algérienne, hein, faut pas exagérer, mais je me sens un peu plus reliée. Parce que j'ai incorporé de la matière du pays, des ancêtres. Mmh.
Je vous...